France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans l'histoire du cinéma hollywoodien, mais on pourrait élargir l'observation à un cinéma européen qui s'est emparé, à une certaine époque, version spaghetti du genre, il y a des westerns exemplaires. Des westerns qui font date, des westerns qui ont rebuté, des westerns qui ont gêné. Un western, comme tout autre film, lorsqu'il est réussi, est lié à la personnalité de son metteur en scène, lorsqu'il est talentueux. La personnalité de Sam Peckinpah, l'histoire de la production du film, ses choix narratifs, filmer l'épuisement, la douleur, la mort ou ne rien montrer du tout, tout cela au menu du ciné-club consacré par Jean-Baptiste Torret le 3 mars 1999 à La Horde Sauvage.
What it took to shoot the final gunfight in the Wild Bunch, it was 19 days. I suppose that is one of my favorite action sequences.
Je pense que la séquence finale de La Horde Sauvage est l'une de mes scènes d'action préférées. Je l'aime parce qu'elle fonctionne, parce qu'à ce moment du film, vous êtes concerné par les personnages.
Bill Holden, Ernest Borgnine, Ben Johnson, Warren Oates, Strother Martin.
Bill Holden, Ernest Borgnine, Ben Johnson, Warren Oates, Strother Martin étaient devenus importants à vos yeux.
Without characters, action for its own sake.
L'action ne fonctionne pas toute seule, sans les personnages. L'action pour elle-même
n'est rien.
En tournant un western comme La Horde Sauvage, j'étais conscient de ne pas vouloir faire un western classique. C'était plutôt un témoignage sur notre époque, qui s'est malheureusement avéré trop vrai.
People who react emotionally to a film. The basic thing about drama is conflict.
Que résulte-t-il d'un drame? La passion, l'énergie, une distance esthétique, un public qui réagit émotionnellement au film. Le conflit est à la base de tout drame. Nous n'avons pas de Deus ex machina qui nous sauve. Nous sommes comme Œdipe qui doit se crever les yeux. Nous sommes pareils. Nous devons choisir entre se crever les yeux ou les ouvrir.
Let's fall in.
Pardon, ma'am.
I'm sorry. I'm so sorry.
Allow me, ma'am.
Thank you.
May I?
Thank you.
Pardon. Wake up. Soldiers, take a look.
I don't care what you meant to do. It's what you did I don't like. This railroad in the bargain. Now, I want you to apologize to this. Yes, sir, can I help you? If they move, kill them.
Ciné Club. La Horde Sauvage de Sam Peckinpah.
J'ai découvert La Horde Sauvage en salle quand j'étais adolescent. Je connaissais le film évidemment de réputation. Je lisais déjà à l'époque beaucoup les revues de cinéma, les publications diverses, et j'étais très attiré par la promesse de violence qu'on m'avait faite.
Et, Philippe Rouillet.
Bien sûr, cette violence, je l'ai retrouvée. Peut-être pas autant que je l'imaginais, parce qu'entre-temps, le cinéma, évidemment, avait avancé. Par contre, ce qui m'a vraiment frappé dans le film, c'est le vieillissement des personnages. C'est-à-dire que, pour une fois, je me retrouvais face à des héros ou des anti-héros qui étaient tous très âgés et qui, pour autant, se conduisaient comme des adolescents et qui étaient des vrais personnages à part entière, qui ne la ramenaient pas uniquement sur le passé, qui n'étaient pas que des icônes de ce qu'ils avaient été, qui étaient vraiment des personnages actifs, actants, et qui en même temps n'avaient pas de retraite possible. C'est-à-dire que habituellement, quand on a dans le cinéma d'action, quand on a des vieux, et notamment dans le western, quand il y a des vieux, ils sont là vraiment comme adjuvants du héros, ils ont un côté pittoresque, folklorique. Or là, non. Et ça a été un choc. J'ai tout d'un coup découvert un autre univers. Et c'est peut-être le film qui m'a amené à m'intéresser au côté désenchantement, vieillissement, crépuscule des personnages. Et j'ai trouvé là un romantisme qui m'a excité ensuite dans toute ma cinéphilie.
J'ai fait La Horde Sauvage parce que j'étais très en colère contre toute une mythologie hollywoodienne, contre une certaine manière de présenter les hors-la-loi, les criminels, contre un romantisme de la violence. C'est un film sur la mauvaise conscience de l'Amérique. Ainsi, Sam Peckinpah évoque-t-il son quatrième et plus célèbre film. La Horde Sauvage allait non seulement révolutionner le western, mais aussi le film d'action des décennies à venir. Qu'il s'agisse de la multiplication des angles de prise de vue, du montage alterné, de l'utilisation singulière du ralenti ou du surdécoupage d'une même scène, l'essentiel du cinéma d'action américain ne fera que recycler la grammaire filmique du réalisateur des chiens de paille. Dès le premier plan du film, William Holden et sa bande apparaissent montés sur leurs chevaux comme des scories pathétiques d'un ouest désormais révolu. Nul doute alors, la nostalgie et la patte dont ces flingueurs sont pétris. Tandis que le générique les fige un à un comme des cartes postales délavées, Peckinpah nous prépare déjà à vivre la fin de la frontière, et surtout, la fin de ces hommes dont l'Amérique de 1913, alors en pleine mutation, ne savait que faire. Ultime refuge illusoire, Éden sans cesse refusé aux anciennes égéries de l'Ouest, le Mexique sera pour Peckinpah cet au-delà mythique du Rio Grande, ce havre de paix aux allures de mirage qui séduira tour à tour Pike Bishop, Billy the Kid et Alfredo Garcia. Sous l'œil innocent et cruel d'une bande de gamins livrant des scorpions à une armée de fourmis, shérifs et hors-la-loi vont alors s'entretuer, transformant la Main Street en un champ de bataille couleur rouge sang. La figure archétypale du duel westernien vole alors en éclats sous la pression d'une esthétique de l'extase et de la manière. Séquence d'ouverture et premier massacre inoubliable, La Horde Sauvage possède le parfum d'une œuvre grandiose, à la fois ironique et cruelle, furieuse et barbare.
Bon, moi j'étais rentré dans le cinéma.
Gérard Camus.
En me disant, bah tiens, bon, je vais voir un film de Peckinpah. J'avais déjà vu un film de Peckinpah, qui était Coup de feu dans la Sierra. Et je n'avais pas vu Major Dundee. Donc, il arrivait, ce film arrivait un peu auréolé, là, de tout un côté un peu sulfureux, quoi, violent. Et c'est vrai que j'ai reçu vraiment un choc, pas simplement le dernier quart d'heure, avec la grande bataille de la fin, mais ça démarre d'abord par un moment hallucinant au début, et puis ensuite on est pris par ces personnages. Moi j'avais été pris par ces personnages, ces deux personnages vieillis là, même si c'était déjà dans l'air du temps, je veux dire que c'est pas, il n'a pas inventé ces personnages vieillis, Peckinpah. Anthony Mann dans les années 50, il utilisait aussi ce type de personnage, mais il les avait amenés jusqu'à à une telle épure que vraiment, moi, ça m'avait laissé un souvenir indélébile. En plus, tout le monde dit c'est un film ultra violent, nerveux, tout. Et puis quand on commence à réfléchir à l'ordre sauvage, on s'aperçoit qu'il y a deux grands moments forts qui sont le début et la fin puis tout le reste. C'est un long trajet, une longue souffrance, et il utilise des temps morts, il utilise ce que les cinéastes européens savent faire, c'est-à-dire les moments qui ne sont pas justement les moments forts. Le cinéma américain, en général, travaille en grande partie sur les temps forts et élimine au maximum les temps faibles. Je parle du film d'action, Et là, c'était tout d'un coup quelqu'un qui modifiait complètement la règle du jeu. Qui nous disait, voilà, je vous amène dans un film d'action extraordinaire, temps fort, cette bataille du début, et puis tout d'un coup, on partait dans quelque chose de complètement différent, ce trajet, cette langue, lente agonie, je dirais, qui partait sur des temps complètement faibles, il se passait rien, on voyait les gens chevaucher, discuter, et ça, moi, ça m'avait fortement marqué.
People marching and singing coming down the street. They're gonna pass by the horses.
We'll join them. The Temperance Union?
They should have been told.
Told what? How long do you think anybody in this manure pile could keep his mouth shut?
What are they? Bounty hunters?
Hell, I wouldn't know.
Buck, with Abe.
I kill them now?
No. Hold them here as long as you can until after the shooting starts.
I'll hold them till hell freezes over, or you say different.
When I kick them out, blast him. We'll make a run for it.
Seal, give me that shotgun.
Il n'y avait que nous deux dans la salle pour témoigner de cette incroyable œuvre d'art. Nous étions totalement abasourdis, submergés. Coup de feu dans la Sierra était une bonne indication d'une approche nouvelle du western. C'était comme le commencement de la fin, et la horde sauvage était la fin. Mais c'était une incroyable flambée de gloire. La violence était revivifiée, mais vous vous sentiez honteux de cette impression, principalement parce qu'elle reflétait ce que nous faisions en réalité au Vietnam, et que nous voyions tous les soirs aux nouvelles de 6 heures. Nous attendions à quelque chose de vraiment incroyable, mais nous étions encore loin du compte. C'était beaucoup plus que tout ce qu'on avait pu imaginer. Martin Scorsese.
Il s'inscrit dans un contexte politique et un contexte cinématographique qui, à mon sens, sont complètement indissociables. C'est que il faut quand même parler de la censure à l'époque, puisque un bref rappel, le Code Hays est abandonné en 1966. Hein, et le Code Hays stipulait que les actes de cruauté et de brutalité excessifs ne peuvent être montrés. Cela comprend toute représentation détaillée et prolongée de violences physiques, tortures et mauvais traitements. À partir de là, on comprend pourquoi, avant 66, dans un film de major, on ne peut pas montrer ce qu'on montre dans La Horde sauvage. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, alors, il y a déjà des films gore, comme les films d'Herschel Gordon Lewis, etc., mais ils sont en indépendant, hors des films de major. Le premier film de major à vraiment montrer le sang, c'est 2 ans avant La Horde sauvage, c'est Bonnie and Clyde. Et la comparaison avec Bonnie and Clyde s'impose à cause du final de Bonnie and Clyde, où Arthur Penn utilise aussi le ralenti et sublime les espèces de petits geysers de sang qui sortent des corps canardés. Alors, Peckinpah a dit qu'il n'avait pas vu Bonnie and Clyde. Ça, on peut le croire. Mais quand même, il y avait un coin qui était enfoncé par rapport à la censure. Et surtout, Penn avait dit, quand Clyde se fait tuer, je tiens à ce qu'on voit un petit bout de cervelle qui jaillit de son cerveau. Et pourquoi ? Pour renvoyer à cette image traumatique de l'assassinat de Kennedy que tous les Américains et que les spectateurs du monde entier avaient vu. Et c'est là qu'il faut rapprocher la censure des événements politiques et au-delà des événements politiques de la médiatisation. C'est-à-dire que pourquoi interdire dans un long métrage ce qu'on peut voir aux actualités, avec en plus qu'aux actualités, c'est réel. Et voir le président des États-Unis en exercice se faire assassiner et sa cervelle qui gicle de la voiture, c'est évidemment autrement fort comme impact que de voir la même chose dans n'importe quel film. Hein. Donc, par rapport aux spectateurs des films, il y a ce côté-là. Et puis, quand Peckinpah fait La Horde sauvage, c'est la fin des années 60, c'est le Vietnam, mais c'est aussi l'assassinat de Robert Kennedy, cette fois, et de Martin Luther King. Et il y a, comme ça, dans l'actualité autour du film, une espèce d'horreur, et qu'il est normal que le cinéma de l'époque reflète. Hein, le cinéma ne peut pas être qu'une bulle rose complètement déconnectée du réel. Et même si, à l'inverse de Altman, quand il fait M.A.S.H., qui, à cause de ses producteurs, il le situe pendant la guerre de Corée, alors que, bien évidemment, c'est le Vietnam qui vise, le cinéma de Peckinpah, alors en sauvage, est beaucoup plus détaché du réel. Mais on y pense forcément, c'est un certain nombre de valeurs qui ont disparu et qui sont tombés et qui rendent possible ce cinéma-là.
L'Amérique, à partir d'une certaine époque, est en proie à de plus en plus de doutes. Après la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, bien sûr, cela alimentera un peu ce qu'on a appelé le sur-western, c'est-à-dire un western qui devient plus réflexif.
François Causse.
Mais l'époque de Peckinpah, c'est aussi donc l'époque du Vietnam. Qui se précise, ce n'est pas encore le cas en 62 pour Coup de feu dans la Sierra, mais en 65 pour Major Dundee, on est en plein conflit, et cela est encore plus vrai de La Horde sauvage. Et il faut bien savoir que la violence de La Horde sauvage est complètement voulue, assumée, calculée par Peckinpah, dans la mesure où il n'a pas pu mener à bien, en fait, ce qu'il voulait faire dans Major Dundee, à savoir montrer la violence dans son déchaînement, dans son horreur.
D'abord, c'est vrai que Peckinpah n'était pas seul à ce moment-là à tourner de cette manière-là, ou en tout cas à proposer une autre version cinématographique de la violence. On pense à la fin de Bonnie and Clyde, de Penn. On pense d'ailleurs à des emplois de figures rhétoriques au cinéma assez voisines.
Denis Méliès.
Surmontage, une impression de ralenti. C'est très intéressant quand on regarde la séquence, par exemple, de la fin de Bonnie and Clyde, et quand on regarde les séquences de Peckinpah, de voir qu'il y a très, très peu de ralenti. Or, très souvent, quand on demande aux gens de décrire cette séquence, on a une sorte de ralenti subjectif, ou de ralentissement subjectif, plus exactement, du déroulement des images de violence, qui semblerait dilater le temps, hein, comme si chaque impact de balle s'inscrivait différemment, ou inscrivait une temporalité différente dans l'image. Or, quand on regarde en détail, on se rend compte qu'il n'y a pas, ou moins que l'on ne se pouvait s'en souvenir, de ralenti. Hein, et qu'il y a au contraire des effets de disjonction temporelle, qu'on crée des effets de temps double entre les personnages, avec des montages assez subtils entre alterné et alternance, comme ça, où une même action est reprise sous plusieurs points de vue différents, qui arrive en fait, pour le spectateur, à créer une impression de temps éclaté, de temps fragmentaire. Et une autre impression comme ça subjective très forte, c'est l'extrême longueur de la scène finale. Là aussi, on n'avait jamais vu ça. On sortait d'une esthétique où les flingueurs se retrouvaient au cœur de la rue, dans une sorte de topographie extrêmement claire, soit chacun au bout de la rue pour des formes de duels très connues, soit tournant autour d'une grange, ou comme dans Rio Bravo, en présentant une sorte de topographie un peu large, avec plusieurs lieux, des murets, une grange, etc. Là, on a une sorte de cirque encaissé à l'intérieur duquel les personnages aboutissent à leur trajet. Une sorte, là aussi, de frénésie, de furie, de violence, de son, etc. Une temporalité qui s'est modifiée. Donc tout semblait neuf, tout semblait allongé. La violence devenait une question en elle-même, parce que donner une telle part dans un film à deux séquences de violence, une à l'ouverture très longue, une à la clôture très longue également, revenait à forcer le spectateur et la critique à s'interroger sur le sens de cette manifestation. On était bien sûr fondé à y voir une nouvelle gratuité, et on voit ici le début de ce débat que l'on a sur la violence au cinéma. Elle est acceptable si elle est motivée, elle est injustifiable si on n'en perçoit plus la motivation et qu'elle deviendrait par trop gratuite. On ne va pas développer ça, mais on sait bien que c'est de John Woo à Tarantino, en passant par Stone, etc., le point d'ancrage des débats sur la présentation de la violence au cinéma. Alors est-ce que ça commence avec Peckinpah ? Peut-être, parce qu'on a le sentiment que cette séquence fait question. Soit elle est lue comme une débauche de violence injustifiable, une sorte de mise à mort des icônes du western dans une débauche de violence, soit au contraire, la violence fait question en elle-même. Et là, à nouveau, le cinéma de Peckinpah est suffisamment puissant pour que la question se dédouble. Soit la violence fait question dans le trajet des personnages, hein, et à ce moment-là, c'est leur trajet qui t'a interprété par rapport à cette furie de violence, soit la violence fait également question par la forme cinématographique que Peckinpah a adoptée. Et on est là dans le paradoxe du film. On a un dispositif du film qui le réinscrit dans une histoire du western très précisément, et dont on peut penser que ce film est l'aboutissement. D'où toute la lecture crépusculaire du film. Le crépuscule commence-t-il là ? Ce crépuscule est peut-être natif dans le western, ou peut-être qu'il a commencé un peu plus tôt chez Ford, par exemple. Donc, est-ce que cette violence-là dit quelque chose sur le trajet et est à comprendre comme aboutissement du western ? Auquel cas, s'il y a crépuscule, qui aura-t-il après ? Bon, donc c'est ce type, premier type de question. Et puis, deuxième type de question, qu'est-ce que cette représentation de la violence-là suppose comme discours sur le cinéma, comme pratique du montage, comme multiplication des points de vue, et finalement, ramener cette question de la violence, c'est une question d'esthétique. Mais c'est là, je crois, que le piège de Peckinpah est là aussi très, très habile, c'est qu'on aurait une sorte de manière, cette surcomposition de la violence dans la séquence finale, après tout, tendrait le bâton directement pour se faire battre, et on a lâché le mot, une esthétique de la violence, de l'esthétique à l'esthétisation, de l'esthétisation au reproche esthétisant, on y est. Donc je crois que ce qui est frappant dans ce film, c'est à la fois un parcours de Peckinpah qui conduit à une sorte d'hyper-réalisme, hein, une sorte de documentaire sur la fin de ceux qui ont construit l'Ouest. Peckinpah disait clairement avoir voulu répondre à la question « Que sont devenus les hommes qui ont fait l'Ouest lorsque le temps historique aboutit à leur expulsion, à leur exclusion ou à leur disparition ?» Bon, alors on voit qu'il faut qu'ils descendent vers le sud, vers la frontière, qu'ils quittent l'Ouest américain pour rentrer dans une sorte de purgatoire ou de dernier lieu avant de disparaître. Donc ce premier trajet qui serait presque une sorte de manière de vérifier une ultime fois une pertinence de l'histoire du western comme histoire des États-Unis, etc. Et puis, une tendance maniériste, dont le western à l'italienne sera en grande partie héritier.
J'ai fait la Horde sauvage parce que j'étais très en colère contre toute une mythologie hollywoodienne, contre une certaine manière de présenter les hors-la-loi, les criminels, contre un romantisme de la violence. Généralement, les réalisateurs trichent avec la violence. Dans la plupart des films, cela devient un jeu. Dans La Horde sauvage, ce n'est pas le cas. J'ai voulu que le public participe peu à peu au moment de violence. Il doit être jeté dans l'action. C'est lui qui tire à la mitrailleuse, et puis tout d'un coup, je vais un peu plus loin au moment où il commence à être excité. Je l'oblige à voir la réalité. Je le plonge dans le sang, dans la boue, je lui mets le nez dedans.
Peckinpah a eu un énorme problème avec Major Dundee. Il est tombé sur un producteur complètement fou, comme lui est quand même assez fou aussi en tant que personnage. Enfin, en tout cas, il est très, c'est un personnage assez, assez entier, on dira. On pourra après un petit peu, non pas nuancer, mais aller un petit peu plus loin dans le personnage. Mais
Gérard Camus.
C'est vrai qu'entre Jerry Bressler et Peckinpah, ça va être le combat permanent pour Major Dundee. Et donc, bien entendu, en général, c'est toujours le producteur qui a le dernier mot, parce que c'est lui qui a les cordons de la bourse. C'est ce qui va se passer. Ce qui fait que pour le Major Dundee, très rapidement, hein, je veux pas du tout rentrer en détail de Major Dundee, mais c'est pour bien expliquer la situation dans laquelle se trouve Peckinpah à l'issue de ce film-là. Donc, si vous voulez, Peckinpah, il le dira après d'ailleurs, moi je donne ma parole, j'ai une parole, j'ai qu'une parole, sauf avec les producteurs. Avec les producteurs, dès que je donne ma parole au producteur, c'est pour tricher, pour mentir, pour faire tout ce que je peux, mais en tout cas, voilà. Parce qu'un producteur n'est pas un homme de parole de toute manière. Et c'est vraiment à partir de Jerry Bressler qu'il va avoir cette envie-là et qu'il va répéter continuellement ça. Qu'il va avoir en plus, ça va être maladif pour lui, ce problème de rapport avec le producteur. Et donc, il a toute une équipe qui le suit, en particulier Charlton Heston, qui pourtant n'est pas du tout du même bord que lui, je veux dire, il n'est pas bon. Il le suit complètement, parce qu'il dit, moi, ce metteur en scène est quelqu'un d'extraordinaire, et je le suis jusqu'au bout. Et quand Jerry Bressler dit, on ne tournera plus ces scènes-là, eh bien, Charlton Heston dit, si, on les tournera, moi, je donne mon salaire s'il faut, mais on les tournera. Donc, Jerry Bressler est battu sur le terrain du plateau, et va donc se venger dans la salle de montage, purement et simplement. C'est-à-dire qu'il va dire, maintenant... c'est entre nous, vous montez un premier jet de film, puis maintenant, monsieur Peckinpah, vous sortez de la salle, et c'est moi avec mes propres monteurs, et ça se reproduira plusieurs fois dans la carrière de Peckinpah, qui va remonter le film comme je le souhaite. Il en gardera, Peckinpah, un souvenir atroce, quoi. Il le dit à un moment dans un interview, je cite de mémoire, que pour lui, c'est comme un enfant, quoi. C'est un film qu'il avait appris à aimer, à adorer, qu'il avait vraiment couvé, et là, il s'est retrouvé complètement trahi, et donc, le plus grave, c'est que Jerry Bressler est un homme qui est rancunier. Et il va faire connaître sur Hollywood qu'il est absolument impossible de travailler avec Peckinpah. Et ça va être la traversée du désert, il en aura comme ça deux ou trois. Ça va être sa première traversée du désert et elle va quand même durer longtemps. Alors heureusement, la télévision va lui permettre de travailler un tout petit peu. Il travaillera sous des noms d'emprunt, même quelquefois, pour faire des séries B. Et puis, on lui offrira donc de faire un film télé qui s'appelle Noon Wine. Et là encore, le producteur de Noon Wine qui prend le risque de prendre Peckinpah comme... de demander à Peckinpah plutôt de faire la réalisation, se retrouve assailli de coups de téléphone dans les 24 heures. Disant, mais vous êtes fous de travailler avec ce type-là, c'est un danger public, c'est un grand psychopathe, enfin bon... Donc il va continuer à avoir beaucoup de mal à faire des choses. On va lui proposer quand même un film, dans la foulée un petit peu, là, avant que vraiment la rumeur n'ait pu se répandre, on va lui proposer de faire The Cincinnati Kid. Et puis ça sera une catastrophe, puisque il tournera un certain nombre de plans, il sera pas d'accord avec le scénario, il n'était pas du tout dans l'optique du scénario prévu par les producteurs et par les scénaristes qui avaient déjà travaillé dessus. Il commence à vouloir remodeler. On lui dit non, pas question de remodeler. Bon, ça se termine en autre boudin complètement et il s'en va. Il laisse et c'est Norman. Enfin, il se fait renvoyer même complètement. C'est Martin Rantzhoff qui le renvoie et qui lui dit bon, c'est fini, on veut plus de vous. Et il est remplacé par Norman Jewison. Donc, 65, 68, enfin 60, on va dire fin 67, il fait rien. En 67, il va en Europe même. Il part en Europe et puis il va proposer à Alain Delon, un peu comme ça, à droite à gauche, des projets de films qu'il a, qu'il tente de monter avec des bouts de ficelle. Tout tombe à l'eau. Personne ne veut prendre le risque de travailler avec Peckinpah. Et c'est il rencontre sur la croisette, il va au Festival de Cannes en 67, et il rencontre sur la croisette un jeune producteur américain qui vient de produire The Hill, la colline des hommes perdus de Sidney Lumet. Il s'appelle Kenneth Hyman, et Kenneth Hyman a une grande admiration pour Sam Peckinpah. Il connaît tous ses films, il a vu ses films, et Kenneth Hyman dit, mais attendez, on pourrait faire quelque chose peut-être ensemble. Et quand, Peckinpah prend ça comme ça, il est assez échaudé, il n'en retient pas plus, et quand il revient aux États-Unis, Kenneth Hyman va lui proposer de faire un film. Il va l'imposer, donc, ça va se faire en plusieurs temps, parce que il va d'abord lui proposer un scénario, scénario de Walnut Green, donc, qui s'appelle La Horde Sauvage, et qui a déjà été travaillé, on le verra peut-être tout à l'heure. Et puis, doucement, comme ça, il va dire à la Warner, vous savez, ça serait bien quand même, ce scénario, ça c'est, à mon avis, c'est un scénario pour le monsieur qui a fait... qui a fait Coup de feu dans la Sierra. Il ne parle pas de Major Dundee, parce que, bon, c'est encore le mauvais souvenir. Et alors on dit, ah oui, Major Dundee. Alors, Coup de feu dans la Sierra, c'était un excellent film, parce qu'il avait eu une très bonne presse, les gens avaient trouvé ce film excellent, tous. Et puis, tout d'un coup, ils disent, mais attendez, c'est pas le même qui a fait Major Dundee ici. Donc, grosse discussion, la Warner se dit, mais attendez, et puis Kenneth Hyman arrive quand même à emporter le morceau, et donc... Peckinpah est officiellement choisi, il signe un contrat, il est officiellement choisi pour faire La Horde Sauvage. Et là, il va s'attaquer au scénario.
Ancien assistant de Don Siegel, il co-signa pour lui le script de L'Invasion des Profanateurs. Sam Peckinpah ne tournera en 23 ans de carrière cinématographique que 13 films. Mais n'eût-il livré que La Horde Sauvage, et son importance était acquise. Que dire de Peckinpah ? Le cinéaste enragé qui donna au western des crépusculaires ses lettres de noblesse ? L'homme alcoolique et suicidaire, fasciné par la violence à tel point qu'il en fit le nerf de tous ses films ? Ou bien l'esthète baroque qui, à la manière des drippings de Jackson Pollock, inonda l'écran de ses geysers de sang ? Dans La Horde Sauvage, comme dans toute son œuvre, Peckinpah dresse le portrait d'une société à l'agonie, incarnée ici par le couple vieillissant, formé par William Holden et Robert Ryan, frères d'armes et de sang que le destin a choisi d'opposer. Si le premier croit encore à la magie destructrice de l'Outlaw, l'autre, entouré d'une bande d'ivrognes détrousseurs de cadavres, n'éprouve devant le monde qui s'annonce que résignation et dégoût. Peckinpah ne s'est pas contenté d'exhiber les codes de l'Ouest, pas plus qu'il ne les a achevés, bien d'autres l'ont fait avant lui. Mais il leur a ôté toute finalité. Ainsi, La Horde Sauvage est un film peuplé de fantômes, qui plutôt que de pactiser avec une modernité de pacotille, préféreront se suicider en provoquant le carnage le plus ahurissant de l'histoire du cinéma. Le tournage du film débuta le 25 mars 1968 dans la région de Parras au Mexique et s'acheva 82 jours plus tard. La bataille du Porsche sanglant, ainsi Peckinpah baptisa-t-il la séquence finale, nécessita 19 jours de prise de vue. Alors que l'Amérique ressasse à nauséables les images de l'assassinat de Kennedy et s'embourbe dans les lisières vietnamiennes, Peckinpah nous livre son chant du cygne apocalyptique et 3650 plans d'une beauté inouïe. Comme tous les grands films, La Horde Sauvage marquera la fin d'une époque et le début d'une autre. Après le 18 juin 1969, date de sa sortie américaine, le cinéma ne fut plus tout à fait le même.
Le scénario de Walnut Green était un scénario... je dirais, d'un bon western, avec une poursuite, donc le principe classique, je dirais, la poursuite entre des bandits qui avaient fait un casse dans une petite ville, et puis une bande de chasseurs de primes. En gros, c'était le western s'arrêtait là, quoi, je veux dire, avec... et puis, il y avait l'introduction, bien sûr, de cette bande partait au Mexique, les chasseurs de primes poursuivaient, donc ça, il y avait tout un côté que Peckinpah va conserver. Peckinpah va amener autre chose, c'est-à-dire qu'il va dire ça serait bien que les deux se connaissent, c'est-à-dire que les deux chefs, le chef de la bande de la Horde Sauvage et le chef des chasseurs de primes se connaissent. Et donc il va construire une histoire qui revient à ce qu'il a construit précédemment. Hein. On dit toujours qu'un grand auteur ne fait toujours le même film, mais en fait il va reprendre l'idée de du couple, celui qui s'est adapté et puis celui qui refuse de s'adapter. Le responsable des chasseurs de primes, c'est celui qui s'adapte, qui a accepté de s'adapter, c'est-à-dire qui a accepté de payer le prix fort, d'ailleurs, pour servir ceux qu'il avait avant justement attaqué. Et puis celui qui n'a pas pu s'habituer à cette nouvelle, à la modernisation du pays et tout, qui reste hors la loi qu'il a toujours été et qui est donc le chef de la bande. Alors ça, c'est l'énorme ajout qui est fait à l'ordre sauvage. Ensuite, il y a la suppression d'un certain nombre de temps forts. C'est-à-dire que Peckinpah aime les situations circulaires. Il tenait beaucoup à ce que les deux personnages ne se rencontrent jamais. C'est-à-dire qu'ils aient un regard au début, hein, il y a un simple regard entre les deux au tout début du film, donc pendant la bataille, et ensuite, ils ne se rencontreront jamais. C'est extraordinaire parce qu'il va tenir la gageure jusqu'au bout, et en même temps, je veux dire que les gens vont le pousser, à dire, mais attendez, c'est pas possible, ils se connaissent, il faut bien qu'à un moment, ils arrivent à se retrouver, à s'expliquer, non. Et il tiendra bon sur ce plan-là, et jusqu'au bout, les personnages ne se rencontrent pas, et ne se rencontreront jamais jusqu'à la fin. Donc voilà, je crois que les ajouts importants, c'est-à-dire qu'il a fait de ce film d'action tout à fait estimable que Wallen Green avait prévu, un film d'une toute autre dimension, intellectuelle. Je crois que c'est ça la force de La Horde Sauvage, c'est que c'est un film, je dirais, viscéral, un film fort, un film d'action évident, et en même temps, il intellectualise la violence, il intellectualise, tout en la rendant forte et je dirais, éclatante, au sens que ça éclabousse l'écran, quoi.
This was going to be my last. Ain't getting around any better. I'd like to make one good score and back off.
Back off to what? Have you got anything lined up? Pershing's got troops spread out all along the border. Every one of those garrisons is going to be getting a payroll. That kind of information is kind of hard to come by. I don't say it's going to be easy, but it can be done.
He'll be waiting for us.
I wouldn't have it any other way.
Ce qui est fascinant dans les rapports de force entre les personnages, c'est que la noblesse se retrouve, la noblesse de morale se retrouve dans la hiérarchie. C'est-à-dire que
Philippe Rouillet.
Le personnage de Robert Ryan se détache très nettement des sales types qui sont avec lui, qu'on lui a collé pour courser la horde sauvage. Et du coup, lui est très à part des autres. Et c'est la même chose dans la horde sauvage. C'est-à-dire que il y a le personnage de Pike Bishop et de Dutch, qui sont les deux meneurs, qui vont être à la table de Mapache. Les autres sont relégués à une table secondaire, auront d'ailleurs des filles moins belles pour faire l'amour, c'est-à-dire que on est dans la même bande, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir dans le western, et qui, à mon avis, était évident dans l'Ouest. C'est-à-dire que le chef a les meilleurs morceaux, et le chef bénéficie d'un traitement de faveur, mais dans les deux camps. Et c'est la même chose chez les Mexicains. On ne s'étonne pas de voir les meilleurs officiers à la table de Mapache, et puis d'autres à une autre table, et puis enfin le tout venant de la population qui est là, tourné autour des tables et qui n'a que les miettes. Eh bien, c'est la même chose pour les personnages. Mais ce qui est beau, c'est que, et là, c'est une idée très romantique, c'est qu'il se trouve que les chefs, pour ce qui est des deux hordes sauvages, entre guillemets, sont les meilleurs moralement. Et, et, Et ça, c'est une idée romantique, parce que la vie n'est évidemment pas comme ça. Hein, ceux qui ont le pouvoir ne sont pas forcément les gens les plus sympathiques, les plus nobles. C'est en cela que le film est complètement anti-réaliste. C'est-à-dire que ce sont les idéalistes qui ont réussi à prendre le pouvoir. C'est très beau comme idée. Et le spectateur a beaucoup de sympathie pour eux, ou du moins pour certains d'entre eux. C'est-à-dire qu'évidemment, il a de la sympathie pour le personnage de Pike Bishop, pour le personnage de Dutch qui est joué par Hans Borgny, et aussi pour le personnage de Robert Ryan, hein, qui est le poursuivant, et aussi pour Edmund O'Brien qui fait Sykes. Évidemment, les gros couillons qui sont dans la Horde Sauvage, là, les espèces de deux brutes avinées, et puis aussi tous ces chasseurs de primes qui sont dans le sillage de Robert Ryan, ceux-là, évidemment, il n'y a rien à en sauver. Et Peckinpah a le courage de montrer des héros négatifs, très négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune noblesse. Ils sont négatifs parce qu'il n'y a aucune noblesse dans les personnages. Les autres sont des tueurs. Ils ne sont pas du tout des enfants de cœur. Ils ont leurs défauts, mais en même temps, ils respectent la parole. Et ça, c'est quelque chose qui donne tout de suite une noblesse au personnage. Et puis surtout, ils sont tous à bout de course. C'est ça qui donne le côté désenchanté. C'est-à-dire que par rapport au film d'Anthony Mann, on sent que les personnages n'ont aucun horizon derrière. Aucun horizon. Et la scène du bivouac est tout à fait là pour nous le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a William Holden, et on a vu ça dans des milliers de westerns et dans des milliers de films policiers, qui dit « on va faire un dernier gros coup et on va se retirer ». Ça, c'est évidemment le côté mythique. Bon, et généralement, le dernier coup se passe toujours mal. Mais il y a Dutch qui lui répond, qui est joué par Hans Borgny, « te retirer où ?» Te retirer où ? De toute façon, tu mourras, enfin ça c'est moi qui extrapole, mais tu mourras les bottes aux pieds, pasticher un titre de Walsh. Tu n'as rien d'autre à faire que de tuer. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, avec les personnages, qu'il y a un côté bilan. Et c'est ça qui donne le côté aussi crépusculaire, et le bilan est très négatif. C'est-à-dire que Bishop a tout raté, en gros, dans sa vie. Même son amitié avec Robert Ryan, qui finalement, ils ont toujours un respect mutuel, mais ils se retrouvent adversaires alors qu'ils étaient comme des frères. Et on a là un personnage qui par rapport au héros classique, non seulement c'est un tueur, etc., mais c'est aussi quelqu'un qui se trompe beaucoup. Et à commencer par le hold-up du début, où il a fait tuer énormément de gens, y compris dans ses propres troupes, pour au bout du compte, de la ferraille trouée. Donc c'est un coup catastrophique. Et il y a cette idée que le héros est pas infaillible, loin de là. Et le côté le héros est perdu, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Et c'est ça qui induit toute la fin. La fin, c'est pas un suicide quand il décide de faire cette ultime barouf d'honneur contre les hommes de Mapache. C'est une sorte de rédemption, puisqu'on a tout raté. Essayons de réussir notre mort, puisque de toute façon, la mort est là, on a tout perdu, donc on ne serait que des morts vivants, en quelque sorte. Donc autant réellement mourir, et que ce soit beau, et que ce soit quelque chose de noble.
Oh,
Si le trajet de Pike n'était qu'un pur trajet suicidaire, qui consisterait à emmener avec lui la horde dans la mort, afin de ne pas périr seul dans cet ultime combat, on serait donc dans un cinéma qui plaiderait pour un nihilisme parfait, une absurdité totale, etc. Bon, or, le cinéma de Peckinpah me semble infiniment plus complexe et plus ambigu que cela. Cette scène...
Denis Méliès.
Où il s'agit d'un adieu aux morts, pratiquement. D'une horde qui quitte le village dans une lumière très particulière et dans un ton de coloris que l'on ne retrouvera nulle part dans le film, dans des verts et des bleus et des noirs très doux, très pacifiés, alors que la dominante du reste de la couleur est au compte du film est ocre, jaune, etc. Ou des scènes nocturnes. On a là une sorte de pause... Et surtout une pause qui ne donne pas un sens, dans la mesure où Peckinpah ne veut pas déterminer l'objet, enfin le point de vue du spectateur, mais peut offrir effectivement une portée collective à la dérive de la horde. C'est-à-dire que ce qui n'était qu'une dérive sans fin devient un trajet, un lieu vers lequel on va. Je le rappelle, le village que quitte la horde est le village d'Angel. De ce fait, c'est la communauté pour laquelle la horde va dérober quelques caisses de fusils, épousant comme ça in extremis une cause au sens le plus simple, une cause politique par exemple, une cause historique, que ces hommes vont accepter, hein, probablement plus par fidélité à l'amitié pour le personnage d'Angel que bien sûr un véritable investissement idéologique qui les amènerait à accepter de combattre aux côtés des révolutionnaires. Non. Ce qui est intéressant, c'est que précisément cette scène-là est suffisante pour causaliser dans le domaine de l'histoire, de donner une raison, d'inscrire donc une sorte de logique, et en même temps, son traitement formel extrêmement différent lui donne une sorte de valeur spirituelle. Mais là, je suis prudent avec la notion de spiritualité, je veux dire simplement qu'elle charge, hein, d'une manière plus complexe, plus riche, plus ambivalente, le départ du village et cette manière dont Holden et Borgnin, je crois, il faudrait là avoir le plan sous les yeux, ont un signe de tête, je crois que l'un des deux enlève son chapeau, je ne sais plus si c'est Holden ou Borgnin, et salue ceux qui les saluent. Une sorte d'échange, hein, et il suffit de cet échange, il suffit de ces plans de regard de vieillards, de femmes et d'enfants, hein, pour que quelque chose se lie entre ces hommes, qui cessent alors d'être une horde de bandits en dérive, mais qui se chargent d'une, j'allais dire, qui se rechargent d'une dimension héroïque. Il y a une sorte de manière de les requalifier ultimement avant que la scène finale puisse s'achever. Alors effectivement, on a beaucoup glosé la reprise de ce plan, de cette séquence dans le générique de fin. Et on a bien sûr souligné que si dans la première version, c'est-à-dire lorsqu'il quitte le village, on a un système de chant contre chant, c'est-à-dire que les regards se répondent, et il y a donc une sorte d'échange entre la communauté et les personnages héroïques que cette communauté peut en cet instant décider d'admirer ou de saluer, on a par contre au contraire plus de chant contre chant, en tout cas plus sous cette forme, dans la scène finale. On a cependant, si... une reprise de la logique du chant contre chant, en ce qu'alternent désormais les icônes figées en noir et blanc ou les icônes couleur, des images arrêtées des personnages, hein, c'est-à-dire des citations de ce qu'a été la Horde sauvage comme film, hein, et de cette scène centrale qui la donnerait à comprendre. Et effectivement, cette épopée, ça peut être une épopée militaire, guerre de sécession, une vengeance contre les Indiens, récupérer une prisonnière, bref, autant de scénarios, de schémas narratifs qui vont d'une certaine manière donner corps au déplacement. Alors que reste-t-il et de l'espace et du schéma narratif dans la Horde sauvage ? Ben, l'espace, on est déjà plein sud. Je veux dire qu'on est déjà en train de glisser vers la frontière, cette zone au-delà du Rio Grande, où on sait bien que vont s'achever les épopées. D'ailleurs, très révélateur que dans la seule épopée de West, enfin, une des épopées de Western en bande dessinée, Blueberry, c'est là que le sergent Blueberry va terminer son trajet. Donc il y a bien une topographie très très forte, symboliquement, qui associe des parcours, des dérives, des échecs à certains lieux. Bon. Donc on est déjà au Texas, on va vers le Mexique, on va vers cet effacement final et la scène dont parlions tout à l'heure. Alors, en ce sens-là, oui, il y a une sorte de comment dire, de rétrécissement de l'amplitude du mouvement, hein, de diminution de cette amplitude, qui est caractéristique de la Horde sauvage. Pourtant, on va retrouver des personnes, des lieux extrêmement connus, comme le désert, Il y a cette très belle scène de désert où on voit des chevaux descendre une dune, les chevaux s'emballent, tombent, roulent au sol. Et les personnages se disputent en bas de la scène. Cette scène est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui permet à Holden de donner, d'un certain côté, la morale de la horde, morale paradoxale, lorsque l'un des personnages veut abattre le plus vieux d'entre eux, un boulet qui le gêne dans leur déplacement. Et là, Holden, il va du couplet. Seul couplet moral, si on voulait. On ne peut pas faire ça. Une fois qu'on a commencé avec quelqu'un, on continue jusqu'au bout. Si tu n'es pas capable de ça, hein, à ce moment-là, tu n'es qu'un animal. Donc, l'humanisation qui est encore en jeu dans le rapport à l'espace et dans le rapport à l'itinéraire, on la retrouve là. Le personnage, dans ce lieu propice, qui alors là est un lieu fordien. Cette manière de glisser sur la pente de sable et de se retrouver en bas, on ne va pas comme ça jouer à Sisyphe autour de cette figure, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est un lieu de définition. On tombe là, on reprécise les cadres, le mouvement doit se poursuivre, alors il est temps de redire qu'effectivement, quand on s'est voué à la horde, on y reste, et que ces hommes sont liés entre eux maintenant, jusqu'à l'achèvement. Alors quand on a cette séquence en tête, on comprend mieux pourquoi dans la scène de la cantina, enfin la dernière nuit qu'Holden passe avec les deux jeunes femmes, il n'a qu'à dire « allons-y, pourquoi pas ?» Parce que ce n'est que la réalisation de ce qui a été dit plus tôt. Donc, encore une fois, jusqu'au parcours final, les lieux, les points de passage de l'itinérance sont essentiels. Que ce soit le désert, ou que ce soit même une scène, j'allais dire, plus romanesque, qui est celle de l'explosion du pont. Scène qu'on a déjà vue, peut-être pas dans sa perfection formelle, mais ce passage obligé, qu'on a déjà vu dans des films sur la guerre de sécession, par exemple, où des nordistes font sauter un pont sudiste ou l'inverse, cette scène pose un lieu, hein, tout comme la scène du désert en posait un autre. Simplement, on voit que là où, par exemple, dans l'appât, la dérive des personnages à travers l'espace est le sujet du film, ou sert à tenir l'intrigue, on a plutôt l'impression chez Peckinpah qu'on va d'une scénette reconnue à une autre, et qu'à chaque fois il s'agit de la retourner, de la transgresser, de la modifier, et que ce sont les liens finalement dans le déplacement qui ont sauté. On est passé dans un western de l'ellipse, on est passé dans un western de la fragmentation, et on est passé dans un western, effectivement, je ne sais pas si la formule vaut quelque chose, mais elle me semblerait presque décrire la scène finale, un western kaléidoscopique, c'est-à-dire un western où effectivement c'est le point de vue qui compte, où il suffit de tourner les choses pour voir se démultiplier une action, et en même temps il suffit d'arrêter le kaléidoscope à un moment donné et on a un tableau à peu près complet. Donc dans cette scène de la glissade là, sur la dune, on a presque un résumé parfait de cette manière têtue que les personnages ont de se vouer à leur destin et de tenir à ce qu'ils ont dit. On aurait presque une sorte de manière négative, inversée, avec des personnages peu recommandables, de cette manière vraiment acharnée avec laquelle un personnage comme Gary Cooper, totalement à l'opposé d'Holden, et pourtant, il partage le même gilet noir, la même veste noire, le même chapeau noir et la même chemise blanche. Donc une même manière de gestuelle et de présence dans le plan, eh bien, cette manière têtue que Cooper a de rester, cette manière qu'il a d'inscrire sur son visage et l'envie de partir et l'obligation de rester, eh bien on la retrouve chez Holden. Alors on a dans cette scène de la glissade sur la dune une manière de dire, eh bien même en ce point d'aboutissement, même à l'instant où je réfléchis d'une nouvelle manière sur la mort de l'Ouest, je peux, par une seule image, une seule séquence, reconvoquer l'ensemble d'une mémoire, l'ensemble d'une question, hein, pour la faire signifier en cet instant-là. Et là, le problème se dédouble. C'est que si Peckinpah peut faire ça avec le corps d'Holden, alors c'est que les propriétés du corps d'Holden et du type de personnage d'Holden ont débuté bien avant.
Hey, I'm down about 20 in silver. With the way that Generalissimo has cleaned out this part of the country, you're going to have a lot to spare.
Generalissimo, hell. He's just another bandit grabbing all he can for himself.
Like some others I could mention.
Not so you'd know it, Mr. Bishop. We ain't nothing like him. We don't hang nobody. I hope someday these people here kick him and the rest of that scum like them right into their graves.
We will. If it takes forever.
General! General! Miren nomás lo que le traigo.
¡Qué hermosura de caballo, caray!
¿Es para usted?
¿Para mí?
Yo se lo doy. Está entero y es pura sangre.
Se lo lleven a cargar a la yegua que yo monto. ¡Lindo! Luego pues se iban a cargar todas las llaves del corral. Mira nomás. Véngase para acá, mi prieta.
Well, look at here.
Pretty good looking old pony, Andy.
Teresa.
¿Llamo a los otros?
Hey, boy. You know them beauties?
¿Dejaste el pueblo?
Sí. ¿Y qué? Sí. Dejé tu pinchurriento pueblo. No más por no morirme de hambre. Pero mira, ahora soy feliz. Muy feliz. Vivo con el mero mero de aquí. General Papache.
Now come on.
She was my woman.
I know.
General.
You ain't your woman no more.
Just look at her licking inside the general's ear. Volta! No!
Mystérieux plan sur le petit oiseau, ou le trop insistant plan sur le scorpion du début, et sa cruauté mexicaine. Faut-il y voir des sortes d'images allégoriques ou de mise en abîme du film ? La horde, c'est le scorpion, les fourmis grouillantes, c'est les Mexicains de la faim, etc., etc. Toutes ces transparences qui sont, à mon sens, illusoires et qui complexifient sensiblement le sens de ces plans-là.
C'est pendant la préparation du tournage que Peckinpah a eu cette idée. En fait, cette idée lui a été suggérée par Emilio Fernandez qui joue Mapache. Hein, il était chez lui le voir pour travailler son rôle et Fernandez lui dit moi, votre scénario, je trouve ça formidable. Quand ils arrivent au début, quand la horde sauvage arrive au début pour faire le cambriolage de la banque, ça me rappelle ces scorpions qu'on mettait sur les fourmis quand j'étais petit. C'est donc lui qui a cette image-là. Et Peckinpah dit, on arrête tout, vite, à téléphone. Et il appelle ses producteurs en disant, vous vous débrouillez comme vous voulez, je veux des scorpions, je veux des fourmis. Ça va être mon début de film, je ne sais pas encore comment je vais l'intégrer, je vais le réécrire. Bon. Et alors, il l'intègre magnifiquement, c'est-à-dire qu'on commence de manière très troublante, avec ces hommes qui sont habillés en militaire. Hein. Donc, pour le spectateur qui arriverait complètement vierge d'information, on voit une espèce de détachement de l'armée. On voit 6 personnes qui arrivent et qui passent devant des enfants. Bon, donc, regard complice, c'est vrai que on se dit tout va bien. C'est les soldats, regard bienveillant sur les enfants. Et on regarde avec un peu plus d'attention et on s'aperçoit que les enfants, effectivement, jettent un scorpion dans cet univers de fourmis. Donc tout de suite, une espèce de cruauté, alors qu'on s'imaginait que tout était rose, tranquille, il y a le revers de la médaille. Et effectivement, on peut, si on reprend la métaphore de l'acteur de Mapache, la horde sauvage, les voir comme des sortes de scorpions, avec en plus cette idée du scorpion, on connaît l'anecdote de Monsieur Arcadin, le scorpion et la grenouille. Le scorpion et la grenouille, c'est-à-dire que le scorpion, il a une nature qui est de piquer, et tant pis si ça il pique, et tant pis si ça le détruit au passage. Hein. Bon, et évidemment, ils arrivent sur cette fourmilière qui est représentée par les hommes de Tantorn et le piège qui leur a été tendu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque alors que les fourmis prennent le dessus sur les scorpions, il y a par-dessus ça, les enfants mettent le feu ensuite. les enfants mettent le feu à cette espèce de nid et détruisent au bout du compte l'ensemble. Ce qui est une sorte de raccourci de tout le film. C'est vrai que Peckinpah a été contre un certain nombre de codes du western classique, ça c'est évident, quand il fait La Horde sauvage. On n'avait pas l'habitude de voir des gens qui pouvaient à ce point se tromper dans leurs activités, qui étaient à ce point, à la limite, cruels. Il y a un plan après le hold-up à la banque, où il y a un des personnages de La Horde qui est blessé, bon, situation qu'on a vue dans des tas de westerns, et qui dit aux autres, bon, les gars, je tiens plus debout, je tiens plus sur mon cheval, continuez sans moi. Dans les westerns habituels, les autres, il y en a toujours un pour le prendre à califourchon sur sa monture, quitte à perdre du temps par rapport aux poursuivants, tant pis, on ramasse les blessés, et puis après, on va le soigner. Là, non, on l'abat de sang-froid, comme un cheval qui serait cassé une patte. Hein. Alors, ça, c'est évidemment un acte terrible, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les westerns. De même, tout le côté un peu crasse, héros vieillissant, héros sans espoir, tout ça, ça va contre les codes du western. Mais en même temps, si Peckinpah va contre certains codes, il en reprend des tas d'autres. Qu'est-ce que la fin, sinon des cow-boys survivants, solitaires, qui vont vers leur destin ? À deux niveaux d'ailleurs, il y a ceux qui vont vraiment vers leur destin, ils ont Robert Ryan et Edmond O'Brien, qui vont aller faire affaire avec les Mexicains de Pancho Villa, qui vont vivre de nouvelles aventures, qui s'éloignent donc solitaires, qui n'ont pas d'attache. Et puis il y a ceux qui sont déjà morts, mais qu'on voit partir dans cette pénombre de sous-bois. Et c'est vraiment l'image archétypique du cow-boy, hein, qui part vers de nouvelles aventures à la fin. De même, si on veut comparer avec le cinéma de John Ford, il y a un attachement à la communauté, qui est très grand, et un sens de la fête. Alors évidemment, la fête chez Peckinpah n'est pas la même que chez John Ford, parce que chez John Ford, d'une part, il y a le code Hays, et puis tout ce qui peut paraître un peu cru est dans le hors-champ. Chez John Ford, c'est les villageois vont faire un grand bal, et puis quand on va voir Henri Fonda qui danse au bras de l'institutrice, voilà, on comprend le sentiment amoureux. Là, les types, ils vont avec des putes, et puis voilà, c'est pas du tout la même chose. Et puis ils vont boire, et ils vont se conduire comme des ivrognes. C'est une autre légende que celle du cinéma de John Ford, mais Peckinpah, à sa manière, imprime lui aussi la légende, et c'est ça qui, je trouve, est très fort dans La Horde sauvage. Je pense qu'il faut bien comprendre que La Horde sauvage n'est pas déconnectée de l'histoire du western. Si, même s'il pervertit certaines valeurs, il en cultive d'autres. Et il y a même l'héritage du cinéma, du western spaghetti dans le film. Peckinpah a dit qu'il avait vu le premier western spaghetti de Léon. Il avait vu aussi Le Bon, la Brute et le Truand. Et il en a gardé certaines choses esthétiques. Dans la chorégraphie de la violence, c'est sûr. Et aussi dans l'utilisation du zoom et des gros plans.
Le western est toujours, d'une certaine manière, un genre réflexif ou un genre spéculaire, un genre qui se filme lui-même en reconvoquant les images de son histoire à chaque nouveau personnage. Pike est un discours sur Ford, sur Wayne, sur le corps de Gary Cooper, etc. C'est un personnage qui reprend par son attitude, par le décalage que crée son arme, par son vêtement, une sorte de citation implicite de toutes les étapes précédentes, comme le sera le personnage d'Eastwood, d'ailleurs, dans ses westerns. Alors le western est nécessairement un genre réflexif, non pas parce qu'il met en abîme le cinéma, qui symbolise le cinéma ou ce genre de choses, mais parce qu'il ne peut que tenir un discours sur le genre, dans la mesure où le western construit y compris Peckinpah et les films qui suivront, Eastwood construit une matière historique dans laquelle l'Amérique se pense et pense son image. Dès lors, chaque image n'est que la somme des images précédentes, le décalage avec les images qui ont précédé. Et c'est pour ça que Holden, dans ce geste final, inscrit une différence, un personnage négatif, à bien des égards un salaud, qui termine son parcours en cet instant. Mais en même temps, il est investi ultimement d'une sorte de grandeur de celui qui accepte la mort, l'assume avec courage, la suscite dans ce geste de tirer sur l'officier allemand, et va en accepter toutes les conséquences pour lui et pour les autres. Et cette grandeur ultime qui est donnée au personnage de Pike, c'est toute l'ambiguïté, j'allais dire pathétique, du western. Hein. Cet univers où le personnage peut être un personnage parfaitement négatif, hein, et en même temps être investi de cette dimension.
Quand même revenir sur cette fin, on a dit bon que c'était une fusillade, ce qui est vrai, mais en réponse à ma page qui avait capturé Angel et qui l'avait tué. Quand on revoit le film attentivement, on s'aperçoit de quoi, c'est qu'effectivement au moment où ils veulent reprendre leur camarade Angel, le Mexicain, ma page l'égorge en leur donnant le et leur redonne le cadavre, mais à ce moment-là, on voit Dutch et Pike qui tire sur ma page.
Philippe Rouillet.
Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que à ce moment-là, tous les Mexicains sont complètement figés, ne ripostent pas. Et alors que, évidemment, les quatre hommes de la Horde sauvage s'attendent à une fusillade générale, il ne se passe rien. Et alors, à ce moment-là, il y a un très gros plan sur le personnage de Dutch, joué par Ernst Borgnine, qui se met à sourire, c'est-à-dire que c'est un sourire de victoire. Finalement, on s'attendait à un gros carnage et on a gagné rien qu'en tirant sur un homme. On a neutralisé, et ils ont gagné, mais il faut renvoyer à qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant. De toute façon, aujourd'hui, demain, ils vont se faire rattraper par la horde de chasseurs de primes. De toute façon, même s'ils ont l'argent, s'ils ont vengé leurs copains, l'avenir est bouché pour eux. Donc délibérément, il prend son revolver et il ajuste l'officier allemand qui était avec Marge. Et c'est seulement à ce moment-là que la fusillade générale se déchaîne, parce que les Mexicains comprennent que de toute façon, ils sont bien obligés de riposter, sinon ils vont tous se faire abattre. Hein. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de complètement splendide. Et là, on ne peut parler que de crépusculaire.
Et c'est peut-être cette contradiction-là que la scène finale, le chaos de la scène finale, met en scène.
Denis Mélier.
On peut revenir un instant sur la dimension formelle. La scène est surmontée, elle affiche une maîtrise technique et formaliste tout à fait brillante, mais en même temps, c'est une scène qui se caractérise par l'aspect chaotique, hétérogène, fragmentaire, hein, de la représentation, comme si désormais on était rentré dans ce cinéma, et dont, là alors, Peckinpah, effectivement, serait rattaché à un mouvement des modernistes, ou de la modernité en tout cas, ou des formes modernes, un cinéma qui ne peut plus faire percevoir le réel que par l'éclatement, par l'hétérogénéité, par la fragmentation. Et en ce sens-là, il est effectivement un cinéaste de la fin des années 60, et son rattachement au courant de cette époque-là se ferait par là. Mais et c'est là quand même le bémol absolu, ce n'est pas un cinéma qui suppose de rompre avec le discours cinématographique du western, mais de l'actualiser ou de le repenser à partir d'une forme filmique peut-être neuve, mais qui prend en charge les grandes interrogations mythiques du genre. Comme Ford, Peckinpah pressent avec une acuité extraordinaire ce que pouvait avoir dans l'imaginaire de terrifiant le moment où la part sublime du mythe, la dimension héroïque, la dimension, j'allais dire, extraordinaire de l'épopée, ce moment où toutes ces dimensions vont disparaître parce que la modernité est en chemin et que cette modernité est en train d'achever l'imaginaire. C'est-à-dire que nous voyons disparaître des personnages désormais impossibles dans l'espace historique qui est le leur. Mais nous allons assister à la grandeur de leur effacement, à l'ultime instant où ils se rappellent à notre mémoire du fin fond de l'histoire du cinéma et du fin fond du western en disant « Nous sommes la somme imaginaire de tous les personnages qui nous ont précédés. Nous inscrivons notre action une ultime fois sur l'écran avant la disparition, avant que ce cinéma-là ne soit désormais plus possible. » Il y a ce pressentiment chez Peckinpah que la modernité qui aura juste après l'histoire de Pike est totalement décevante. Qu'elle ne mérite pas d'être filmée. Par contre, ce qui mérite d'être filmé, c'est l'instant de l'effacement, l'ultime moment. Donc, il y a effectivement cette idée, à la fin de La Horde, qu'il y a... Ne pas montrer le visage de Pike, c'est bien sûr aller dans le sens-là. Une fois l'action achevée, ce visage-là est dérobé à l'image, il reste tel que le film l'a précédemment constitué. Et on ne le reverra plus que dans le générique, sous forme d'icône, ou dans le moment le plus heureux du film, lors de la séquence où les personnages quittent le village. Mais il y a encore autre chose. Le film ne s'achève pas là. Une fois la mort de Pike survenue, il y a cette scène où Thornton, le personnage joué par Robert Ryan, rentre et constate à nouveau le massacre, prend le Colt de Pike comme une sorte d'objet de mémoire qu'il va garder en lui, et attend à l'extérieur du village mexicain qu'un autre personnage, le personnage du plus vieux des bandits de la Horde, vienne le chercher pour une ultime dérive et une prolongation au-delà du générique d'une aventure américaine ou d'une aventure dans l'Ouest.
Por cada uno. Pronto, deme mi dinero, yo se los quito a como dé lugar.
You said dos for two.
Here's your dose and one to grow on. And that's all you're going to get out of me.
Dos es más que dos. Por eso dos por cada uno. Démenlo. No me dieron nada, pero ojalá. Ay, se volteen. Se los lleve el diablo de Si yo les cumplí, ¿por qué no me lo dieron?
Let's go. Why not?
Sauvage, il y a un plan que j'aime vraiment beaucoup, qui est le plan où les quatre hommes se retrouvent avant le massacre final. C'est-à-dire que il y en a trois qui ont été voir des prostituées. Dutch était resté à l'extérieur en train avec un couteau tailler un morceau de bois. Et par un jeu de regard, ils vont se retrouver. Et ce qui est très beau, c'est que comme ils se retrouvent moralement, ils se retrouvent aussi spatialement. C'est-à-dire qu'à partir de là, Peckinpah les enferme dans le cadre. Mais enfermer n'est pas beau. Le cadre devient une sorte d'écrin de leurs sentiments. Et ils vont descendre. Alors, ils sont filmés en pied, ils vont descendre la rue de cette garnison mexicaine pour aller défier Mapache. Et là, il y a une sorte d'étirement du temps, avec sur la bande-son, qui est fameuse, une chanson mexicaine, qu'on peut croire diégétique, on peut croire que c'est la fête, et au fur et à mesure qu'on avance dans le village, on s'aperçoit que c'est qu'une musique de film, que personne n'est là en train de chanter, et ça donne une espèce de complainte romantique, et ça renvoie pour moi, quand je vois cette scène, ça renvoie à une autre scène mythique qui est un peu semblable, c'est à la fin de Rio Bravo, quand John Wayne et ses adjoints vont pour le règlement de compte final, pour délivrer leur camarade. Et il y a cette idée de personnage, en quelque sorte, qui se la joue. Ils descendent la rue devant le regard de tout le monde, c'est les héros, ils ont leur arme, ils roulent des mécaniques. Moi, si je voulais garder une image de la horde sauvage, ce serait celle-ci, ces quatre hommes qui sont en marche vers leur propre mort, évidemment à mettre en lien avec, à la fin, leur chevauchée quand ils rentrent dans la pénombre du sous-bois où ils sont déjà morts et ils rentrent dans un autre espace-temps qui est l'espace de la légende du cinéma.
To give it to you. Andale, vamos, angelito. Andale, mi angelito. Ya está libre. Vamos. Hay que caminarle precioso, así derechito, para que ellos se sientan contentos. Y eso es muy rico. Ah, vamos a portarme. Ángel libre,
ángel. Ay, 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 con los gringos.
Ángel, ¿qué dice con los gringos, no? Ándese.
Hee hee!
La chose étrange, avouait Peckinpah, est que vous éprouvez un grand sentiment de vide quand ces tueurs atteignent la fin de leur route. La horde sauvage figure aujourd'hui aux côtés des carnavals grotesques de Bruegel, des caricatures grinçantes de Daumier, de la détresse des visages effacés de Bosch, ou encore des masques ricanants qui obsédaient tant les tableaux de Goya. Comme lui, Peckinpah a su saisir dans le temps qui passe ce grand dévoreur de vie, ce charognard implacable qui, tels les vautours de la fin du film, disent l'illusion de l'itinéraire et la vanité de l'accomplissement. En se jetant un dernier éclat de rire aux lèvres dans la gueule du coyote, Pike, Dutch et les siens se sont offerts une ultime transgression et ont substitué à une mort qu'ils savaient inexorable la pure noblesse du geste, un sublime moment de désenchantement. Ouvrir les yeux ou les fermer, filmer l'épuisement, la douleur, la mort ou ne rien montrer du tout. Pour Peckinpah, la ligne de partage ne pouvait passer ailleurs. Il n'y a pas plusieurs manières d'aborder la violence. De même qu'aucune œuvre ne pourra jamais s'acquitter de ce lien ambigu et troublant que tisse entre elles la laideur morale de l'acte et la beauté de sa représentation. Peckinpah, lui, a choisi de montrer et d'assumer enfin cette part maudite dont les membres de la Horde furent le temps d'un film, les dépositaires entêtés. Je crois que la plupart de mes films tournent autour des perdants, des solitaires, des inadaptés, des individus qui cherchent quelque chose de plus que la sécurité. Mes personnages sont battus d'avance, ce qui est l'un des éléments primordiaux de la vraie tragédie. Ils ont pris depuis longtemps des accommodements avec la mort et la défaite, alors il ne leur reste plus une illusion. Aussi représentent-ils l'aventure désintéressée, celle dont on ne tire aucun profit, sinon la pure satisfaction de vivre encore.
Club, La Horde sauvage de Sam Peckinpah, par Jean-Baptiste Torré. Avec Philippe Rouillet, Gérard Camille, Denis Mélier, François Causse. Prise de son Jean-Pierre Pernel, Philippe Etienne. Mixage Bernard Laniel, Alain Claudel. Réalisation Judith Dastier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 mars 1999.